J'ai vécu ce week-end du consistoire et de la clôture de l'année de la miséricorde avec beaucoup de bonheur, je dois dire. D'abord, recevoir cette mission du pape François avec beaucoup d'autres confrères venus des quatre coins du monde, on peut dire. C'était quand même quelque chose qui nous appelle à être proche de lui, disons, à être associé un peu à son ministère de la communion entre toutes les églises. C'est très touchant et en même temps, ça me révèle qu'il y a une responsabilité dedans, de pouvoir articuler, si je puis dire, ce qu'est notre expérience, là où nous sommes, et la mettre sur la table afin de pouvoir discerner qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église. Et puis, il y a eu la clôture de l'année de la miséricorde aujourd'hui, que j'ai trouvé une très très belle cérémonie, un temps très fort, non seulement à cause des paroles du pape, qui étaient extraordinaires, mais aussi sa manière, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette lettre qu'il a confiée à des évêques, des laïcs, des religieuses, etc. Une lettre pour dire que la miséricorde, ce n'est pas un thème parmi d'autres, c'est le centre de notre foi, c'est le centre de notre vie. C'est très fort, j'ai trouvé, et c'est très beau de dire ça et de donner comme une solennité à cette lettre qui fait prolonger l'année de la miséricorde, que ce soit une vie de miséricorde.
Cette année sainte avait ceci de particulier qu'elle était décentralisée, que tous les diocèses du monde étaient invités eux-mêmes à mettre une porte sainte à la disposition des fidèles et à développer des initiatives de miséricorde aussi sur le terrain. Comment, vous, à l'île Maurice, vous avez vécu et accompagné cette année ?
Nous, à l'île Maurice, on a voulu vivre cette année de la miséricorde plus ou moins en trois temps. Trois aspects, si vous voulez. D'abord, c'était découvrir la miséricorde. Alors, nous avons mis sur pied des petites équipes qu'on appelait les équipes de messagers de la miséricorde. Des laïcs, des religieux qui se mettaient ensemble, une petite équipe qui allait dans les quartiers, qui allait faire les gens qu'on ne voyait pas très souvent à l'église et qui leur proposait un temps de partage sur un texte évangile, une parole de miséricorde pour qu'ils découvrent la miséricorde. Et beaucoup m'ont dit combien ça les a touchés de voir que les gens étaient à l'écoute, rechercher quelque chose de comme ça. Et puis après, le deuxième temps, c'était recevoir soi-même la miséricorde. Alors à ce moment-là, ces mêmes personnes, ces mêmes messagers allaient inviter les gens au sacrement de la réconciliation, et leur donnant des moyens simples, des petits livrets pour vivre cela comme il fallait. Et puis le dernier temps, c'était agir, vivre la miséricorde, aller vers les lieux de souffrance ou des lieux éloignés et rencontrer des gens qui souffraient. Par exemple, dans une paroisse, le prêtre, le curé, a invité des jeunes à venir avec lui et son équipe visiter un hôpital, un très grand hôpital. Alors, chaque jeune était accompagné par quelqu'un d'expérience. Ils sont ressortis de là bouleversés, cherchant à voir qu'est-ce qu'il y avait dans cette visite, dans cette rencontre. Et c'est des jeunes qui, en découvrant la miséricorde, ben, on espère qu'ils trouveront leur voie, une voie qui donne du sens à leur vie.
Alors concernant le consistoire, une des impulsions très nettes données par le pape François, c'est de tourner le regard vers les périphéries, vers des pays parfois oubliés. Alors vous n'êtes pas le premier cardinal de l'histoire de l'île Maurice, puisqu'il y a eu le cardinal Margeau avant vous, mais c'est néanmoins un signal important donné à des îles, à des petits pays qui sont parfois peu connus. Pour l'île Maurice, cette élévation cardinalat, qu'est-ce qu'elle représente pour votre nation ?
Pour notre pays, pour notre Église, ça a été comme une explosion de joie, de fierté. C'est comme si un père de famille, qui a une famille très nombreuse, et qui va poser la main sur la tête d'un de ses petits-enfants, un peu éloigné, et qui dit « ça m'intéresse ce que tu vis ». Et c'est un peu comme ça qu'ils ont reçu, si vous voulez, cette nomination. Ce n'est pas seulement ma personne, mais c'est ce que nous vivons sur cette île. Alors c'est vrai que nous sommes une périphérie, et que nous avons été très très touchés par ce geste du pape François, mais je n'oublie pas qu'à l'intérieur de notre île, même si elle est petite, il y a aussi des périphéries, et que ça nous renvoie à notre responsabilité d'aller à leur rencontre, par exemple ceux et celles qu'on voit très peu à l'église. Et chez nous, nous disons aussi qu'on rencontre beaucoup de monde, mais on rencontre peu les très pauvres et les très aisés, et qu'il faut chercher des moyens à les rencontrer. Alors voilà, c'est un peu notre défi. Et puis aussi, vous savez très bien que notre Église est une minorité dans le pays, Elle représente environ 30-33% de la population, mais il y a 50% de frères et sœurs hindous, il y a 18 ou 19% de frères et sœurs musulmans. Et vers eux aussi, il faut avoir une manière de se rencontrer, de partager, de vivre quelque chose.
On sait que le dialogue interreligieux est l'un des fers de lance de ce pontificat du pape François, qui l'appelle constamment à tendre la main vers l'autre, à parler, à échanger, à développer des amitiés. Comment cette relation avec notamment les hindous et les musulmans est-elle vécue à l'île Maurice ?
Comme à l'île Maurice, nous sommes tous des immigrants récents. Les plus anciens immigrants, ça date de 3 siècles environ. Et est-ce à cause de cela, ou est-ce aussi à cause d'un certain, un charisme, si vous voulez ? Il y a beaucoup de rencontres à la base, dans les voisinages, dans le travail. Par exemple, il y a chaque année des pèlerinages, soit organisés par les chrétiens, soit des pèlerinages hindous. Et à chaque fois, on voit des chrétiens qui offrent de l'eau, des victuailles sur la route du pèlerinage, et vice-versa, quand ces pèlerinages chrétiens, les hindous et les autres aussi nous offrent quelque chose et nous encouragent dans notre démarche spirituelle. Il y a aussi, à l'époque des grandes fêtes, beaucoup de partage, de petits gâteaux, tout ça, mais aussi, quelquefois, on nous invite à participer à certaines manifestations culturelles ou religieuses qui ont trait. Par exemple, la fête de Diwali, de la lumière, par exemple. On est toujours présent à certaines manifestations. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et nous commençons à prendre conscience, nous avons déjà depuis un bout de temps, un centre de formation au dialogue interreligieux pour les chrétiens. Et ce petit centre donne des sessions très régulières. Et maintenant, on va chercher à établir dans les différents quartiers, les différentes paroisses, des groupes informels de personnes de différentes religions qui se rencontrent régulièrement pour un partage gratuit. L'amitié entre ces personnes de différentes religions est précieuse entre tous. Parce qu'il y a eu des moments difficiles chez nous. Et cette amitié entre voisins ou entre personnes du même quartier ou du même village a pu sauver des situations.
À travers ce respect, cette amitié qui se sont créées à travers toutes ces fêtes religieuses partagées, ces expériences vécues ensemble, est-ce que l'île Maurice a un petit peu un message à donner au reste du monde ? On sait qu'il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhensions, notamment en Europe. Est-ce qu'à travers ce que vous vivez, vous, au bout du monde, finalement, ce n'est pas aussi un témoignage à offrir au monde entier ? Votre entrée dans le Sacré Collège est aussi une façon de manifester cet échange d'expériences avec vos frères cardinaux du reste du monde et à travers eux aux églises du monde entier ?
Oui, tout à fait. Mais nous ne prétendons pas avoir une solution, nous ne prétendons pas être parfaits non plus, mais certainement partager ce que nous vivons avec bonheur. Il y a beaucoup de choses qui se vivent avec bonheur, je dois dire, dans ce domaine-là. Mais aussi les défis qui sont devant nous, hein. C'est un défi perpétuel de savoir se respecter. Je vous donne un exemple d'un défi, c'est quand dans la politique, vous savez, la question religieuse et la question d'affiliation politique s'entremêlent. À ce moment-là, ça crée des tensions, des replis identitaires, et on se protège mutuellement l'un contre les autres. Et ça brise tout ce qui a été construit pendant des années, souvent, sur le terrain. C'est un éternel recommencement. Hein. Mais je crois que c'est une grande valeur. J'ai l'habitude, quand je prêche à la télévision, tous les ans, nous avons des créneaux sur la télévision nationale pour un message. J'aime insister à dire que Jésus est mort pour tout le monde. Il est ressuscité pour tout le monde. Il est venu sur la terre pour tout le monde. Et ce n'est pas offenser personne que de partager ce que nous croyons avec vous. Et j'ai jamais eu tellement de critiques ou de rebonds malveillants.